haine des chaînes se déchaîne. Une émission qui défonce tout. Où avocats, flics, sociologues, curtons, patrons, matons et autres démocrates n'ont pas la parole. Et surtout, ferment leur gueule.
Je nourris des perspectives, nuances.
Des chaînes, une émission radioactive où affamés, émeutiers, enfermés, vandales, insoumis, rebelles, crient rêve et révolte, rage, colère et haine de ce monde de merde.
Agir et rire de voir ce monde s'écrouler.
Une émission sur l'ADN à l'occasion de la sortie de 3 brochures à ce sujet.
Du sang, de la chic et du molar sur l'ADN.
L'apparence de la certitude, l'ADN comme preuve scientifique et judiciaire.
Ouvrez la bouche, dit le policier. 2 textes sur l'usage de l'ADN dans la machine judiciaire.
Vous pouvez retrouver ces 3 brochures sur le site adn.internetdown.org.
Saint-Chéron, les voleurs de tuyaux iront derrière les barreaux. Les habitants de Saint-Chéron peuvent se rassurer. Leur toilette matinale n'est plus menacée. Grâce à des mégots de cigarettes retrouvés dans la maison qu'ils ont occupée pendant 3 mois, les 2 voleurs ont été confondus par leur ADN.
Retrouvés grâce à l'ADN. 2 des 4 hommes qui avaient braqué le 24 avril dernier la bijouterie Aurélia au 47 avenue de Saint-Ouen 17e et emporté 200 000 euros de bijoux ont été formellement identifiés. Des prélèvements effectués dans une voiture abandonnée dans un parking de Seine-Saint-Denis qui avait été utilisé pour le braquage d'Aurélia, ont permis de découvrir des traces de l'ADN des 2 jeunes hommes âgés de 19 ans.
Villiers-Adam, le voleur de voiture retrouvé grâce à son ADN. Une série de prélèvements ont été effectués dans le véhicule comme sur des objets retrouvés, ce qui a permis d'isoler 4 empreintes ADN distinctes. Il a fallu attendre cet été pour que 2 des 4 ADN soient identifiés par le FNAEG. Fichier national automatisé des empreintes génétiques.
On entend ces formules presque tous les jours dans les médias. L'ADN serait la reine des preuves, la vérité implacable, irréfutable, indiscutable. Et pourtant, on a bien envie d'en discuter. Quand on me dit « c'est sûr, c'est ton ADN », qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment mon ADN ? Et même si c'était vraiment le mien, pourquoi le seul fait qu'il y ait mon ADN quelque part suffirait à me rendre coupable du délit qui a été commis à cet endroit ? Mon ADN aurait été retrouvé sur une bouteille jetée sur un flic. Cela prouve-t-il que c'est moi qui ai jeté cette bouteille ? Quand on entend parler d'ADN, c'est souvent au sujet de présumés violeurs en série, meurtriers de longue date ou autres personnages monstrueux. Mais chaque jour, dans les commissariats, les flics prélèvent de l'ADN à des personnes accusées de simples délits, comme un vol dans un supermarché ou un tag sur un mur. Les flics demandent de cracher de l'ADN, comme si l'ADN crachait la vérité suprême. On ne veut pas dire que l'ADN n'existe pas, serait une pure invention, un gigantesque complot, mais expliquer comment il est utilisé aujourd'hui, dans quel but et par qui. Cette émission commencera par une petite introduction qui définit ce qu'est l'ADN et ce qu'est le FNAEG. Ensuite, on abordera l'utilisation par la justice de la preuve ADN présentée comme irréfutable. Et on terminera par le refus.
Alors, l'ADN, c'est quoi ?
Ça veut dire déjà acide désoxyribonucléique. C'est cette molécule qui est héritée de moitié par le père et de l'autre moitié par la mère et qui est une molécule dite informationnelle, à savoir qu'elle contient un code génétique qui coderait pour des caractéristiques physiologiques ou physiques comme la couleur des yeux, la taille du nez, et voilà.
Je voudrais juste en fait préciser, parce que peut-être finalement que tout le monde ne le sait pas, c'est que cette molécule qui se trouve donc dans les cellules du corps, elle se retrouve dans toutes les cellules qui peuvent tomber naturellement d'un corps humain, comme dans des cheveux, ou même dans des cellules de la peau, dans du postillon, dans des choses comme ça. Et donc ces cellules, on en perd tous les jours énormément. Et si on touche un objet, des cellules de notre peau vont se retrouver sur cet objet. Et en fait, l'usage policier qui en est fait, c'est de prélever ces petites cellules qui sont trouvées sur cet objet et ensuite, en prélevant une cellule sur une personne, d'essayer de retrouver par l'ADN, de prouver que il s'agit du même ADN et donc de la même personne. Et donc que quelqu'un s'est trouvé sur une scène de crime, a touché un objet qui a servi à faire ou à commettre une infraction. C'est ça la base en fait de l'usage de l'ADN par la police. Et c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que pour développer cet usage, la justice, enfin le pouvoir a inventé un fichier dans lequel on va mettre l'ADN d'un grand nombre de personnes. Et ce pouvoir a ajouté quelque chose qui est que si on nous demande notre ADN et qu'on refuse de donner cet ADN, ben dans ce cas-là, on commet une infraction et on peut être poursuivi. Et on peut avoir un procès pour avoir refusé de donner notre ADN. Et donc c'est vrai qu'on s'est souvent trouvé confronté à ce problème de gens qui étaient poursuivis pour avoir refusé de donner leur ADN.
Et donc, en fait, on a creusé un peu le truc en rédigeant trois brochures, enfin deux plus précisément. Donc la première, c'est... Il y a une qui s'appelle « Du sang, de la chic et du molar » et qui revient sur les questions d'ADN en général. Donc un petit point technique sur qu'est-ce que c'est l'ADN, il y en a plusieurs sortes, etc. Sur comment ça se passe en garde à vue et sur les procès. Et une deuxième qui s'appelle « L'apparence de la certitude » qui est là, c'est qui revient sur l'ADN comme preuve policière et judiciaire. Et une troisième qui est une compilation de deux textes du journal anticarcéral L'Envolé. On peut retrouver ces trois brochures sur un petit site, donc je vais donner l'adresse, c'est http://adn.internetdown.org. L'idée de ce site, ça serait justement de mettre en commun un certain nombre de témoignages.
Le FNAEG, fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Il existe depuis en fait 2001. Sachant qu'en 1998, il a commencé à y avoir un fichier, mais qui n'était pas du tout aussi général, qui fichait uniquement ce qu'il appelle les délinquants sexuels. Et en 2001, il y a une première loi qui l'étend à un assez grand nombre de délits et qui crée en même temps le délit de refus ADN.
En 2003, 2000 profils ADN, donc qui confondent aussi bien des profils identifiés de personnes qui leur est donné, mais aussi des traces ADN qu'on retrouve sur des lieux de crime et qu'on n'a pas su à qui elles appartenaient. Et aujourd'hui, on est à 1 million. Donc il y a un espèce de boom de ce profil ADN et qui correspond au fait que ça a été largement élargi au niveau des délits. Il y a très peu de délits pour lesquels on n'intègre pas l'ADN dans le fichier. Les seuls délits pour lesquels on ne l'intégrerait pas sont les délits routiers, les délits financiers et le troisième, c'est le délit de presse.
chance that as a weapon to dance, and I'll be dancing on with myself.
Quand la justice rencontre la science. Mais avant d'aborder le terrain que se sont choisis la science et la justice pour se donner une apparence d'infaillibilité, un petit aperçu rapide de comment ils font pour faire un profil ADN. D'abord, les flics prélèvent de l'ADN sur les lieux d'un crime ou délit, ou au commissariat à l'aide d'un bâtonnet qu'ils insèrent dans la bouche du gardé à vue. Comment font-ils ensuite pour l'analyser ?
Alors, la petite subtilité que je vais essayer de développer, c'est que en fait, l'ADN, on la fait parler. C'est-à-dire que dans les textes de loi qui ont été établis, afin de parer à toute attitude eugéniste qui viserait à prendre un profil ADN et établir les caractéristiques physiologiques ou physiques de la personne à partir de ce profil, eh ben eux ils disent on ne fait pas ça, on ne touche pas à l'ADN dit codant, c'est-à-dire qui code pour une caractéristique physiologique ou physique, la couleur des yeux, la forme du nez, la forme des oreilles ou je ne sais pas quoi. Eux, ils disent, on garde que du non-codant.
Quand on dit qu'ils utilisent du non-codant, c'est vrai, à part pour le sexe.
Apparemment, c'était suite à l'avis d'un comité d'éthique, composé de je ne sais pas trop qui, que la loi a décidé qu'il fallait prendre de l'ADN non-codant. C'est évidemment une sorte de caution démocratique, hein, que cette histoire de non-codant, simplement, dans les faits, cette distinction, on voit bien qu'elle est très facile à tourner et à contourner, mais elle est dans la loi pour des raisons vraiment d'affichage démocratique et d'affichage droit de l'homiste.
Et donc, ce non-codant, ils le font parler dans le sens où ils disent on part de quelque chose qui ne veut rien dire, et à partir de ces séquences qui ne veulent rien dire en soi, qui ne codent pour rien, nous, on va leur attribuer une caractéristique. Et ils établissent des corrélations statistiques avec, par exemple, des caractéristiques ethniques. C'est ce qu'on appelle TOGE, le test géogénétique, qui est proposé aux juges en France depuis 2007. Ils disent, voilà, il y a des ethnies, on les délimite comme étant des Afro-Américains ou des Caucasiens. Ils regardent les profils et ils disent, je dis pas qu'il existe un gène du Caucasien, mais quand j'ai un profil de Caucasien, j'observe le marqueur 1 et 2 et 3 qui est de telle manière. Donc si je vois que le marqueur 1, 2 et 3 est de telle manière, je vais dire que ça va être forcément un caucasien que je vais devoir choper, ou à 80% ça va être un caucasien qu'il faut que j'attrape. Donc en gros, tout ça pour dire qu'ils disent pas qu'il y a un gène du caucasien qui existerait, parce que ça, ce serait quand même un peu tendu d'affirmer ce genre de choses.
Oui, ce qu'il faut bien comprendre avec les statistiques qui sont faites sur les marqueurs ADN, c'est que, en vérité, On ne définit pas une population à partir de l'ADN, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on définit à l'avance une population donnée. Et c'est à partir de cette définition qu'ensuite, on relève donc un certain nombre de points sur l'ADN et qu'on établit des statistiques sur ces points. Et donc, au fond, quelle que soit la population définie au départ, on obtiendra toujours une réponse, par définition. Et si, par exemple, il prenait l'idée de commencer à faire des statistiques sur les moustachus, eh ben on peut très bien prendre 1000 moustachus et relever leur ADN et établir un profil statistique de ces 1000 moustachus, il y aura bel et bien une réponse. Sauf qu'évidemment, si on en prend 1000 autres, il y a toutes les chances pour que ça soit différent. Mais bon, donc par rapport aux moustachus, évidemment, la statistique n'a aucun sens. Mais le problème, c'est que, après, il s'agit d'une question de croyance. Si par exemple, on se dit que il existe des personnes violentes et que ça va se retrouver dans leur ADN, et ben donc s'il y a cette espèce d'idée préconçue là-dessus, et ben à partir du moment où on aura choisi un critère évidemment arbitraire pour savoir comment on définit que quelqu'un est violent et qu'on classe un certain nombre de personnes dans cette catégorie de violents et qu'on commence à faire des statistiques sur leur ADN, et ben on aura bel et bien évidemment une réponse. Et donc, réponse qui, même s'il n'a aucun sens particulier, pourra toujours servir de manière très idéologique à ceux qui veulent faire ce genre de, établir ce genre de rapprochement et de statistiques.
Je perds en moyenne plusieurs dizaines de cheveux par jour. Je ne sais trop combien de poils. Plein de bouts de peau. Quand je parle, je postillonne. Je pisse et je chie. Parfois, je saigne. Parfois même, je fume des clopes. Au cours d'une journée, je vais dans plusieurs endroits différents. Je rencontre plein de gens. Et je suis proche d'une multitude d'objets. Je dépose un nombre impressionnant de traces ADN dans ces lieux, sur ces personnes, sur ces objets. Je recueille au passage involontairement un certain nombre de traces ADN laissées par d'autres gens et je peux aussi volontairement déplacer des traces ADN d'autres personnes que moi. Alors me dire que je suis coupable de quelque chose parce qu'il y a mon ADN quelque part n'est pas un argument très convaincant.
L'exploration du terrain de la preuve, scientifique et judiciaire, sera un moyen de jeter une lumière crue sur le fonctionnement de la justice et de la science combinée pour mieux servir la répression.
Depuis quelques années, on a pu constater qu'il y a avec la preuve par ADN, dans une sorte de propagande un peu quotidienne, médiatique, télévisuelle, feuilletonesque, j'allais dire, il y a une espèce d'aura d'infaillibilité qui entoure cette preuve, qui apparaît un peu comme la plus scientifique de toutes les preuves scientifiques, et donc la plus sûre et la plus objective de toutes les méthodes de cette police scientifique qu'on n'arrête pas de vanter de manière, donc comme je disais, de manière, enfin, dans la propagande quotidienne. Et ça va tellement loin qu'on a vu à plusieurs reprises maintenant des gardes à vue où les flics vont jusqu'à dire au suspect, bah écoute, on a ton ADN, donc tu vois, tu ne peux pas nier, donc à vous. Et effectivement, avec cette espèce de pression autour de cette preuve, qui fait que certaines personnes qui ont été ainsi accusées sur la base de la reconnaissance de leur ADN, comment se défendre. Donc nous, on a voulu remettre ça en cause, parce que pour nous, bien sûr, une preuve en justice, c'est pas quelque chose qui dit la vérité, sachant que la vérité judiciaire, de toute façon, c'est toujours ce qu'on appelle en justice, la libéralité de la preuve, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve en fait qui est quelque chose de définitif. Et c'est toujours en fait l'intime conviction du juge, la manière dont le juge se forge sa conviction à partir d'un faisceau d'indices, dans lesquels d'ailleurs des considérations sur le profil psychologique, social, etc. de la personne inculpée sont très importantes. Donc c'est toujours ça qui détermine en fait la justice. Donc elle a un côté évidemment assez subjectif, mais grâce à l'ADN, elle donne le sentiment qu'elle est quasi, non pas infaillible, mais en tout cas le plus scientifique et la plus objective possible. Alors il faut dire aussi que De toute façon, pour nous, il n'y a pas d'erreur judiciaire. Donc si on remet en cause la preuve ADN, c'est pas pour, par crainte des erreurs judiciaires, parce qu'on pense que de toute façon, la justice, elle ne commet pas d'erreur. Elle a un objectif de classe, qui est de maintenir un certain ordre social, un ordre social qui n'est pas égal, et pour lequel il faut majoritairement réprimer ceux qui, d'ailleurs, effectivement, sont les premiers à ne pas respecter cet ordre-là, c'est-à-dire les pauvres. C'est vrai qu'ils commettent la majorité des infractions, il faut bien le reconnaître. Donc c'est vrai aussi que c'est logique que ce soit eux qui s'en prennent le plus dans la gueule. Mais par rapport à ça, et surtout vrai pour la justice de masse, la question des faits, la matérialité des faits, de ce qu'il a bien fait ci ou ce qu'il a bien fait ça, c'est pas une question si centrale que ça. Et la subjectivité du jugement du juge, enfin du juge en fait, permet justement d'appliquer à la grande louche, j'allais dire, ce genre de sanctions. Mais la preuve par l'ADN vient donner un petit vernis de scientificité et d'absence d'arbitraire au fonctionnement de la justice.
Et concrètement, quand on se retrouve dans un tribunal et qu'il y a soi-disant la preuve ADN, quels sont les arguments qui peuvent être donnés pour dire que ce n'est pas une preuve infaillible?
En fait, comme ça a été expliqué tout à l'heure, ce qui est établi à partir de l'ADN, c'est un profil. C'est-à-dire qu'on est loin de décrypter la totalité de l'ADN. On se contente de prendre un certain nombre de points, qu'on appelle des marqueurs. Et à partir de là, donc, à partir de ces points, on essaye de différencier les ADN. On en prend donc en général 8. C'est le cas pour le fichier. On peut monter parfois jusqu'à 15. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien entendu, deux ADN différents peuvent donner deux profils semblables. C'est-à-dire deux personnes qui ont une longue molécule d'ADN qui n'est pas la même, ben, si on prend seulement 8 points, il peut par hasard, c'est possible, arriver que ces 8 points soient les mêmes. Et d'ailleurs, à chacun des marqueurs considérés, si on prend un seul marqueur, eh ben, il n'est pas unique, évidemment, ce marqueur-là. Si on prend un marqueur, on va trouver que, par exemple, 8% de la population, ou 12%, ou 3% vont l'avoir. Hein. Donc il y a une réelle possibilité, effectivement, de confusion en fait, ou de ce que les scientifiques appellent les faux positifs. Alors à partir de là, pour éviter ces fameux faux positifs, la police scientifique fait établit des calculs de probabilité à partir de considérations sur la génétique des populations, de considérations d'ailleurs qui sont assez raciales, puisque en priori c'est les personnes qui font partie de la même ethnie, qui ont le matériel génétique le plus proche, donc c'est entre elles qu'il faut les distinguer. Donc on établit des pourcentages de répartition des marqueurs en fonction des populations ethniques. Enfin bref, il y a tout un micmac qui est fait à partir de ça. Et nous, on prend tout simplement un certain nombre d'arguments qui permettent de dire que ce calcul de probabilité, il est tout à fait possible de le remettre en cause. Et que quand, devant un tribunal, un expert dit eh bien, il y a seulement une chance sur 1 milliard pour que ça ne soit pas cet individu qui est là devant nous, qui a laissé une trace ADN sur l'arme du crime, eh bien, il est possible de dire non, votre probabilité, elle est fausse, vous ne pouvez pas la tenir, c'est pas possible. Et on a des arguments pour ça.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ADN, c'est quelque chose qui se balade beaucoup, contrairement à des empreintes digitales. Ça peut se transporter beaucoup plus facilement, ça peut, on en répand, en effet, partout. Donc rien de ça, c'est aussi quelque chose qui peut être contestable. On peut par exemple imaginer que quelqu'un prenne le mégot d'un fumeur pour aller le mettre sur l'endroit d'un délit, ou qu'il s'y retrouve même par hasard parce qu'il s'est accroché à une chaussure ou j'en sais rien, et qu'après la personne, si elle est fichée, ça match comme on dit, et donc on va estimer qu'elle était sur tel lieu de tel délit, alors peut-être qu'elle n'y était même pas, qu'elle était de rue à côté, qu'elle était même pas au courant de ce truc-là.
Mais ceci dit, par rapport à ça, c'est vrai que ça, c'est la manière la plus évidente de contester la preuve ADN, et je pense que c'est celle que les avocats utilisent couramment, de dire, bon, le mégot était là, et alors, la pizza, oui, et alors. Mais le fait de contester la reconnaissance même dans son caractère purement scientifique, ça fait beaucoup moins, en fait. Ça a été fait apparemment dans quelques cas assez rares en France. Et il semblerait que dans d'autres pays, ça se développe davantage. Et c'est vrai que nous, on aimerait bien que certaines défenses puissent s'emparer de cette possibilité aussi, et pas la laisser tomber a priori, comme malheureusement ça semble être souvent le cas. C'est un peu le paradoxe avec la science, c'est que d'un côté elle est censée exister sur le mode du doute, une vérité scientifique est toujours une vérité du moment, une hypothèse qui ensuite est remise en cause, évolue. Enfin, par exemple, L'exemple le plus extraordinaire, c'est ce fameux ADN non codant, dont on nous dit qu'il n'est pas codant parce que c'était l'état de la science à un moment donné que de le déclarer non codant et quasiment sans usage, alors qu'il semblerait de plus en plus qu'il y ait quand même, il a quand même un sens et il n'existe pas pour rien. Donc ça, ça fait partie, par exemple, de ces usages. Bref, la vérité scientifique, c'est toujours une vérité d'un moment. Mais en même temps, c'est l'archétype de la vérité maintenant. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui est toujours présenté comme la certitude. Et si en théorie on peut remettre en cause une assertion scientifique, en fait, concrètement, c'est toujours seulement un autre scientifique qui peut contester un point de vue scientifique. Et dans le cas de la preuve ADN, bah, c'est un contre-expert qui peut contester l'expert. Or, il faut savoir que les experts, en particulier dans l'ADN judiciaire, ils sont en nombre limité, ils sont agréés. C'est tous leur gagne-pain, en fait, que, évidemment, de défendre la validité de la preuve ADN. Donc, il paraît difficile d'imaginer qu'un de ces experts agréés vienne expliquer devant le tribunal qu'en fait, son gagne-pain, c'est quelque chose qui ne marche pas. Donc, on voit bien que, du coup, bien que normalement la science ça soit le doute, et ben en fait, en vérité, et j'allais dire dans la propagande quotidienne, la science c'est l'absolue certitude. Et ça aussi, il faut le remettre en cause et l'attaquer.
Et est-ce qu'en se plaçant sur le terrain de la valeur technique de la preuve par ADN, il n'y a pas le risque de laisser sous-entendre que si la preuve par ADN pouvait être absolument fiable, il n'y aurait plus de raison de la contester?
Bah oui, totalement. D'ailleurs, nous, on s'est inspiré d'un livre qui, précisément, défend le point de vue que la preuve ADN n'est pas assez sûre et qu'il faut l'améliorer. Donc on a retourné cet argument-là en disant, bon ben, utilisons les arguments qui sont donnés par ce livre pour maintenant introduire des défenses. Une défense par rapport à ça, mais c'est sûr qu'il y a une volonté d'améliorer cette preuve de la part des scientifiques, et ça c'est incontestable. Mais quelle que soit l'amélioration qu'ils apporteront sur le plan purement technique, d'abord il y aura toujours des choses qui pourront être contestées, parce qu'une amélioration, ça ne veut pas dire... Il s'agit quand même de problèmes fondamentaux, hein. Une amélioration, ça ne veut jamais dire que tous les points contestables vont disparaître. Et puis ensuite, une deuxième temps, il y a toujours ce fameux usage de la preuve, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est de toute façon le même, hein, qui est toujours un usage évidemment fait, utilisé par la justice, non pas pour la vérité absolue des faits, mais pour ce qui est sa fonction réelle, et qui est la répression centrée, ciblée sur une certaine catégorie de population.
Que peuvent nous apprendre par exemple des traces ADN relevées sur un bout de pizza abandonné? Sinon que quelqu'un a mangé de la pizza. Qu'ensuite on affirme que celui qui a mangé cette pizza est la même personne qui, le même jour et au même endroit, a organisé une attaque contre une voiture de police? Voilà le genre de raisonnement qui n'a strictement rien de scientifique. Il s'agit bien plutôt ici de la technique dite du faisceau de présomption, qui permet au juge, à partir de l'impression que laisse sur son esprit une série de faits plus ou moins significatifs et de suppositions plus ou moins fondées, de se faire une opinion. Mais la présence de l'ADN et l'impression de la scientificité qui s'attache à cette technique aura permis de gommer cet aspect très subjectif de la prise de décision du tribunal et de substituer à la conviction du magistrat l'apparence de l'irréfutabilité de la preuve scientifique.
The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
What's up?
Hey, dog.
Drowning dog.
Coming through, check, check.
Class consciousness hot.
It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay.
Yeah.
Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay. It's a class war.
This is about
community.
This is about
freedom now.
This is about
power. And who has power and who doesn't?
This is about
class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Always forced to do things that I don't want to do.
You know, shit job for your whole life.
It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for, who we fighting for, who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before.
It's like my grandma used to say.
Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war war.
Yeah, yeah. Fuck yeah. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Hip hop.
That it's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game.
Capitalist scum fuck.
That it's a rich man's game.
It's about power.
Who has power and who doesn't?
It's a class war.
Say it loud.
That it's a class war.
Yeah.
It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war.
Can you hear me now?
So it's a class war.
Yeah.
It's a class war, it goes on every day. Decisions for our life, I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war. Class war.
What's class got to do with
it? It's about power. About power. Who has power and who doesn't?
Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay.
I'm a class conscious.
Mala, mala, mala vista.
Class conscious. Hip hop.
The state.
The government.
Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming through. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming through. What? A bang-a-lang-a-lang-a right here. EK crew bringing your class war. Malatesta on production.
You know.
Class war.
Les flics prennent l'ADN de n'importe quel garde à vue, sous n'importe quel prétexte.
Je tiens aussi à préciser que quand on parle de ces délits, on parle de gens, quand on demande en garde à vue, c'est pour des gens dont on n'a pas encore été jugé. Donc c'est tous les gens qui se retrouvent en garde à vue, qui pourraient être soupçonnés par exemple d'avoir fait un tag, et qui finalement ne vont pas être reconnus coupables pour avoir fait le tag. Mais par contre, le fait d'avoir refusé de donner leur ADN, c'est un délit.
C'est pas seulement quand on est soupçonné qu'on peut prendre l'ADN, mais c'est aussi quand on a été condamné pour la liste des infractions hein, qui est dans le code de procédure pénale. Donc quand on est condamné, après la condamnation, on peut recevoir une lettre qui dit « Venez vous présenter à la gendarmerie ou à la police ». Et là, une fois qu'on se présente, eh bien, on demande l'ADN. Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a une petite subtilité, c'est que cet ADN ne peut être prélevé que dans l'année qui suit l'exécution de la peine. Donc l'exécution de la peine, attention, une peine d'amende, elle est exécutée quand il y a paiement de l'amende. Mais une fois que cette peine est exécutée, il n'y a qu'un délai de un an, en fait, pour prendre l'ADN. Et ça, c'est quelque chose qui était un peu en balance, c'était pas très clair. Et c'est des affaires relativement récentes, un arrêt de la Cour de cassation de l'an passé, des relaxes qui ont eu lieu il y a très peu de temps, qui montrent qu'effectivement, au-delà de ce délai de 1 an, ils ne peuvent plus réclamer l'ADN. Pourtant, attention, ils vont quand même le faire, en tablant sur le fait que les gens ne connaissent pas cette subtilité de la loi. Ils vont quand même convoquer les gens, ils vont quand même leur demander leur ADN. Et certaines personnes croyant que cette fois, vu que c'est la deuxième fois qu'ils leur demandent, c'est une sorte de délit continu, ils vont faire une récidive et ils n'osent pas le refuser, alors qu'en fait, ils pourraient être relaxés. Parce que c'est pas que le délit n'existe plus, c'est qu'il est plus punissable. C'est en plus, là aussi, une petite nuance. Donc on a vu, y compris après des gens rappelés au-delà du délai, on les a vus même refuser, être poursuivis. On arrive au jour de l'audience, et là, au jour de l'audience, le procureur dit non, finalement, je demande un relax parce que le délai est dépassé.
Thank you.
Il est possible de refuser. Quelques bonnes raisons pour ne plus subir sans brancher.
On est de fait dans plein de fichiers. Et c'est vrai que dès qu'on rentre en garde à vue, on est inscrit au STIC. Si en plus on est jugé, on se retrouvera inscrit sur le casier judiciaire, qui est lui aussi un fichier. Et puis il y a plein d'autres fichiers qui existent.
Il y en a 58.
Mais pour une fois, j'ai envie de dire, là, on nous demande de se prêter ou pas à ce fichage. Et je trouve que c'est un peu un minimum, un peu de principe, de dire, au moins, pour une fois qu'on peut refuser d'être fiché, pourquoi ne pas le faire ? Ça serait un peu dommage de ne pas le faire.
Par rapport au fichage, il y a deux fichages qu'on peut refuser, finalement. C'est celui sur l'ADN et celui sur les empreintes digitales, puisqu'on peut aussi refuser de donner ses empreintes digitales et sa photo en garde à vue, et c'est aussi un délit, à peu près d'ailleurs le même genre de peine. Alors c'est marrant d'ailleurs qu'il y ait ce système où, effectivement, avec beaucoup de bémols, puisqu'ils ont des manières de passer outre le consentement de la personne, on l'a dit. En fait, c'est marrant qu'il y ait quand même ce système où on demande le consentement et vous refusez est un délit. En fait, bien entendu, le STIC, le fichier des personnes recherchées, le casier judiciaire, tout ça, on n'a absolument pas l'avis aux gens de voir s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas être fichés. Mmh. On les fiche, point barre. Et donc, c'est vrai que là, il y a un côté un peu droit de l'homiste, bien entendu, puisqu'il s'agit de prélèvements biologiques, de prélèvements d'identité. On veut quand même préserver en quelque sorte l'apparence du respect de la personne humaine, de sa dignité, de son intégrité physique, de son corps, etc. Donc on établit une possibilité de refuser avec un délit à clé. Même un drôle de système.
Seulement on cherche à identifier un individu, mais en plus il y a cette logique de fichage familial. C'est-à-dire que l'ADN, comme on en a parlé un peu au début de l'émission, c'est quelque chose qui est hérité de la mère et du père. Et par digression, en disant à 50%, de la similarité ou pas, on peut très bien rapprocher plusieurs éléments de la famille avec un ADN. C'est pas tant un seul individu qui est fiché, mais c'est aussi une famille, tout un ensemble de proches, de par le fait qu'on partage un patrimoine génétique en commun.
Alors, quant à refuser, quelles sont les techniques utilisées par les keufs pour prendre l'ADN à ton insu ?
Il faut préciser tout de suite, peut-être, que c'est tout à fait légal de leur part. Quand il y a impossibilité de prendre l'ADN, c'est comme ça que le dit le texte de loi, donc de récupérer de l'ADN détaché naturellement du corps de quelqu'un. Donc impossibilité, ça peut être par exemple une perquisition, la personne n'est pas là, mais ils ont le droit de prendre des brosses à dents pour essayer de trouver l'ADN de cette personne-là. Ça peut être aussi suite à un refus ADN en garde à vue. Dans ce cas-là, n'ayant pas la possibilité de prendre l'ADN de la manière normale, ils peuvent prendre de l'ADN détaché du corps.
Ça peut être donc de récupérer des mégots, ça peut être de récupérer les gobelets dans lesquels les gens ont bu. L'autre moyen qu'ils peuvent utiliser, qu'on a déjà vu, c'est de prendre des vêtements de quelqu'un et par recoupement en disant je trouve tel ADN sur le pull, sur les chaussettes, sur le slip, et donc de là j'en déduis que ça doit être l'ADN de telle personne. Il y a récemment une copine où là ils ont récupéré sa serviette hygiénique après pour récupérer donc l'ADN.
Sachant qu'en fait ils le font pas systématiquement, c'est-à-dire qu'ils demandent, ils demandent pas non plus systématiquement.
Et du coup, nous par rapport à ces cas qui sont certainement rares, on préconise quelques techniques. Bon, sachant que la garde à vue peut durer quand même assez longtemps, le coup de la clope, faut vraiment se méfier, parce que ça c'est vraiment genre moment de détente, allez viens fumer ta clope, maintenant on est des copains. Là, faut faire attention. Donc, en gros, ce qu'on suggère, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une cellule de garde à vue où il y a beaucoup de gens qui passent, donc où il y a beaucoup de traces ADN qui sont laissées et où il n'y a pas souvent de nettoyage qui est fait. Donc, c'est quand tu manges, plutôt préférer manger avec les doigts qu'avec des fourchettes, mais même quand tu bois avec le gobelet, essayer de boire à distance peut-être, ou sinon, frotter par terre ce qu'on a touché ou utilisé de manière à rendre un peu moins exploitables les résultats qu'ils ont. En général, ça leur simplifie pas la tâche, quoi. Ou sinon, même, j'ai vu des gens, mais ça dépend un peu du mode sur lequel ils sont. Il y a des gens qui m'ont raconté qu'ils avaient tout gardé sur eux, par exemple le gobelet, le mégot, ils le gardent dans leur poche, je sais pas quoi, et on vient pas leur retirer, quoi.
En fait, je voulais juste ajouter un truc, c'est que ça existe aussi le prélèvement de force, ce qu'on appelle vraiment le prélèvement de force, c'est-à-dire ouvrir la bouche, maintenir la bouche ouverte et planter le bâtonnet dans la bouche. Mais ça, en fait, c'est réservé, c'est normalement que pour les crimes ou délits passibles de plus de 10 ans et sur instruction du procureur de la République, donc ça, c'est ce que dit la loi, avec maintenant un certain nombre de cas assez rares. Manifestement, ils l'ont fait alors que c'était pas dans le cadre légal.
En fait, là, l'idée de creuser tous ces trucs-là, c'est pas de se mettre à flipper, d'avoir peur, de dire ah, c'est terrible, machin, ils vont me demander systématiquement mon ADN lorsque je suis en garde à vue. Parce que c'est une grande machine, l'administration policière, l'administration judiciaire, et il y a plein d'aléas, donc il n'y a rien. Enfin, c'est pas que ça soit du hasard, mais on ne peut jamais savoir si on va se faire demander son ADN lorsqu'on sera en garde à vue. Si on refuse, bah on peut ne pas être poursuivi, ça arrive assez souvent. On peut être aussi poursuivi, donc c'est un délit. Un délit passible de, je ne sais plus...
Normalement, c'est un enferme et 15 000 euros d'amende pour...
La peine maximale.
La peine maximale pour un délit.
Voilà. Et donc on peut passer en procès pour ça, et on peut être aussi bien relaxé, comme ça arrive souvent, qu'avoir une petite amende, qu'avoir une amende avec du sursis, qu'avoir une peine de prison avec du sursis, et aussi on peut avoir une peine de prison ferme. Souvent quand le délit initial, le délit pour lequel on s'est fait d'abord attraper et mettre en garde à vue, et s'il est condamné fortement, il y a plus de chances d'être condamné fortement aussi pour le refus de prélèvement ADN. Et même si on s'est retrouvé à donner son ADN ou à se l'être fait prendre, on peut continuer à vivre et à faire un certain nombre de choses en prenant un peu plus de précautions, en mettant des gants, en mettant
C'est toujours conseillé, hein, dans tous les cas.
Le but, c'est pas de flipper par rapport à ce prélèvement ADN, au refus qu'on peut exprimer. Et puis, tout ça, c'est juste savoir comment ça marche et s'en tirer au mieux et savoir comment il fonctionne en face pour dire « Ah, voilà, je peux faire ça. »
Hormis les problèmes procéduriers, est-ce que vous avez des exemples de défense qu'on peut utiliser face à la justice quand on passe en procès pour refus d'ADN ?
Bah, pour le refus, la défense, c'est assez difficile parce qu'on peut pas justement, à part les trucs de procédure, on peut difficilement dire « j'étais pas là, c'est pas moi », etc. Et donc, nous, ce qu'on utilise, les arguments qu'on essaye de développer, c'est ce qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire le fichage familial. Moi, je veux pas être fichée parce que c'est difficile de dire à un juge je veux pas être fiché parce que je risque de commettre des délits, et donc vous vous rendez bien compte que c'est dangereux pour moi. Mais dire par exemple c'est pas seulement moi qu'on fiche, c'est aussi mes frères et sœurs, potentiellement mes enfants, etc., ça n'engage pas que moi et je refuse dans ces conditions d'être fiché. Vous dites que vous utilisez l'ADN de telle manière, mais en fait les usages que vous en faites, ils vont bien au-delà de ce que vous dites. Et d'ailleurs, c'est l'exemple de Toche qu'on a donné tout à l'heure. Vous faites des profils ethniques, etc. Et utiliser, sachant que ce genre d'arguments, c'est pas du tout des arguments qui peuvent entraîner la certitude, enfin la conviction du juge de pour nous relaxer, c'est évident. Voilà. Je sais pas ce qu'on peut dire.
Donc on est obligé de faire presque une défense un peu politique. En effet, et pas une défense entre guillemets d'esquive sur ce délit-là en tout cas.
Sachant qu'il y a un argument, qui marche aussi pour les autres fichiers, c'est-à-dire qui est vrai pour les autres fichiers, qui est de dire, vous vous rendez bien compte que être dans ce fichier-là, comme dans les autres, c'est être potentiellement coupable, comme l'histoire de la pizza à Le Monde, c'est-à-dire que ton ADN est retrouvé, hop, t'es dans le fichier, et en plus, si ça se trouve, t'es dans un autre fichier de profil de je sais pas quoi, dans, ou même dans le stick, ou dans un fichier politique, et là, t'es évidemment coupable parfait. Mmh. Par rapport à la défense, quand on se défend parce qu'on est accusé du refus ADN, nous, ce qu'on pense qu'il est mieux de dire dans un tribunal, c'est justement pas d'essayer de faire une séparation entre des actes militants qui ne devraient pas conduire à un fichage ADN parce que les militants sont des gens qui commettent des actes pour des raisons politiques, alors que d'autres sont juste des délinquants, et que donc certaines personnes n'auraient rien à faire dans ce fichier, ces personnes-là seraient des militants, alors que d'autres, sous-entendus, auraient quelque chose à y faire. Et que donc, quand on est accusé par rapport au refus ADN, accuser le fichage en général en disant qu'on soit militant ou pas, ce fichage-là, c'est un fichage de population, et donc on refuse d'y participer, ça nous semble plus intéressant qu'une défense citoyenne qui différencierait des militants et des délinquants et qui ferait, par ce biais-là, le jeu de la justice et des flics en général.
Ne pas rentrer dans la logique de la justice qui joue toujours sur la distinction entre le gentil petit blanc et le rebeu de la cité, le militant politique et le voleur à la tire, le bon manifestant, le casseur, etc. etc.
Et voici d'autres raisons de ne pas donner son ADN. De refuser leur pression et leur intrusion dans nos corps. De refuser leur soi-disant preuve absolue et indiscutable. De refuser le fichage général qui fait de nous des objets, des statistiques et des numéros. De refuser cette prétendue protection qui n'est que contrôle médical et policier. Refuser, refuser, pour ne plus subir sans broncher. Si le code pénal prévoit de punir le refus et la récidive, n'oublions pas que ces refus entravent leurs avancées. Et ça n'a pas de prix. Crachons notre haine, pas notre ADN.